Bonjour. Je suis vraiment. Mathieu, tu joues un jeu dangereux. Dire à un prédicateur qu'on est super en avance, c'est toujours dangereux, je trouve. Je vais essayer de pas me laisser influencer et de pas me laisser aller. C'est un plaisir vraiment d'être là, d'être avec vous, de revenir ici. Hein, comme l'a dit Mathieu, j'ai servi ici et passé du temps ici. Et c'est vraiment une joie de voir plein de visages que je connais. Et peut-être une joie encore plus grande de voir plein de visages que je ne connais pas. De voir que cette église, elle vit, que cette église, elle grandit, qu'elle continue son œuvre. Et je suis vraiment encouragé de voir cela et de rencontrer de nouvelles personnes dans cette église que pourtant je crois connaître parfaitement. Je suis en région parisienne maintenant, Mathieu l'a dit. Je suis secrétaire général de la Fédération Baptiste, de notre union d'église, et j'en profite donc pour vous transmettre les salutations de l'ensemble de nos églises, du siège, du conseil, son président Nicolas Farelli. Nos églises se préparent, comme vous, certainement, pour la rentrée. Nos églises vivent comme ça sur le rythme scolaire, avec un ralentissement pendant les vacances et puis un dynamisme nouveau qui vient en septembre. Mathieu a évoqué que les difficultés que nous connaissons en ce moment à la Fédération, hein, en tant que groupe d'église, nous avions un projet ambitieux à Massy, projet de mettre en place des logements pour les étudiants qui apprennent le français pour aller sur le champ missionnaire dans les pays francophones, aussi bien en France que dans les autres pays où on parle français, l'Afrique, mais ailleurs. Et puis, le Covid qui fait que les coûts ont explosé, et puis les étudiants qui diminuent parce que les missions n'envoient plus comme ça à long terme, font que ce projet est très difficile à rembourser et qu'il nous met en danger. Mais nous sommes reconnaissants de ce que nous voyons la main de Dieu dans des gens qui nous proposent leur aide technique, leur aide financière également. Et voilà, je veux bien vous recommander, nous recommander à vous pour vos prières, mais à la fois des prières pour que nous arrivions à traiter ce problème et à nous sortir de ce problème financier qui touche toutes nos églises, mais aussi pour remercier Dieu de ce qui est là et de ce qui nous accompagne dans cette difficulté. J'ai oublié de dire que je ne suis pas venu les mains vides, je vous ai apporté un cadeau. Enfin, si, je suis venu les mains vides parce que mon cadeau, je l'ai oublié à la maison, mais je reviendrai vous l'apporter. Je cherche Corinne. Voilà, je voulais partager avec l'Église un livre que j'ai lu cet été. Que j'ai vraiment aimé sur la soumission, sur l'humilité et jusqu'à quand rester dans la soumission même quand les circonstances sont difficiles. Hein. Ce livre s'appelle Trois hommes et une couronne. Et donc voilà, j'en ai acheté un exemplaire que je ferai passer à Corinne pour qu'il soit ajouté à la bibliothèque. J'ai envoyé un mail à la Sono Vidéo. Si vous pouvez, il y a un moment où j'aurai une image. Ce serait chouette de le faire. Je vous dirai quand ce sera. Et puis, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire avant de commencer. Donc, tournons-nous vers la parole de Dieu. Chantal disait tout à l'heure, il y a un temps pour tout, pourquoi pas utiliser ce temps pour chercher la volonté de Dieu, pour désirer chercher la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire. Je vous propose de lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Pourquoi Luc? Pourquoi le chapitre 13? Parce que c'est le texte du jour. Il y a une liste de textes qui est proposée à l'ensemble des églises chrétiennes. On n'a pas forcément l'habitude de suivre cette liste dans les églises évangéliques. Mais comme c'était les vacances, que je n'avais pas de message particulier que je souhaitais vous faire passer, je me suis dit, on va juste prendre le calendrier et regarder ce que Dieu veut dire. Donc un texte que d'autres églises chrétiennes lisent aujourd'hui, en Luc 13, à partir du verset 22, où on parle de Jésus et qu'on dit « Il traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. » Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens sauvés ?» Il leur répondit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restés dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire « Seigneur, ouvre-nous !» il vous répondra « Vous, je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous commencerez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos grandes rues. » Il vous répondra, « Vous, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez chassés dehors. On viendra de l'est, de l'ouest, du nord et du sud pour s'installer à la table dans le royaume de Dieu. Ainsi, il y aura des premiers qui seront... Ainsi, il y aura des derniers qui seront premiers et des derniers qui seront premiers. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ce texte, je trouve, quelque part, c'est une question classique. N'y aura-t-il que peu de gens sauvés ? Cette question, j'ai l'impression de l'entendre aujourd'hui, parfois, discuter avec des gens qui s'inquiètent de savoir qui sera sauvé ou non. Est-ce qu'il y aura vraiment des gens qui sont envoyés en enfer ? Comment un Dieu d'amour peut-il faire cela ? Et qu'adviendra-t-il de ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus et des enfants qui meurent trop tôt, etc., etc. ? Oui, une question que j'ai l'impression d'avoir déjà entendue. N'y aura-t-il que peu de gens sauvés ? Pourquoi est-elle posée à ce moment-là dans l'Évangile ? Le texte nous dit que Jésus est en route vers Jérusalem et dans l'Évangile de Luc, ce voyage commence au chapitre 9 et se termine par l'arrestation, le procès, la crucifixion. Et dans ce voyage, on voit que les choses sont tendues. On a vu dans les chapitres précédents l'opposition grandir entre Jésus et les responsables religieux. Et Jésus a annoncé sa mort. Et puis il a eu cette charge contre les pharisiens au chapitre 11 et 12, fin du 11, début du 12, où Jésus les a même maudits. Tous ne seront-ils pas sauvés ? Est-ce que certains resteront sur le carreau ? La question est claire, et pourtant Jésus semble répondre à côté. Au lieu de répondre clairement à la question « oui, non, il y en aura beaucoup, il y en aura un peu », il déplace le sujet et répond « efforcez-vous ». Il force l'interlocuteur à se regarder lui-même plutôt que de parler de généralité. Peut-être l'année dernière, vous avez suivi le programme de groupe de maison de l'Église, c'était sur les controverses dans l'Évangile de Jean, et vous savez que Jésus fait ça souvent. Souvent, il y a des questions qui lui sont posées, et au lieu de répondre directement à la question, il déplace la conversation sur ce qui lui semble vraiment intéressant. C'est peut-être un truc qu'on peut utiliser nous-mêmes quand on nous pose des questions difficiles, des questions théoriques sur la Bible, sur Jésus, au lieu de parler théoriquement, par exemple, de qui va être sauvé. Réorienter nos interlocuteurs, la question c'est toi. Et ta relation avec Dieu est ta responsabilité devant Dieu. Voilà, je ferme la parenthèse, je reviens à notre texte. Et Jésus, pour répondre, il met en scène une histoire de porte étroite, de maison, de maître de la maison, de gens qui veulent rentrer, qui ne rentrent pas, qui restent dehors. Et en préparant cette prédication et en méditant ces versets, en méditant cette histoire, j'ai pensé à un videur devant une boîte de nuit ou devant une soirée pour personnes réservées, pour célébrités, un truc qui se passe dans un lieu privé. Il y a les gens qui font la queue pour entrer, et puis il y a le videur qui est là. C'est bon, tu rentres. Non, toi, je dis pas de basket, tu rentres pas. Il y a ceux qui peuvent rentrer comme ça, puis il y a ceux qui essayent, mais qui n'ont pas le dress code. Puis il y a ceux qui essayent, qui donnent un nom sur la liste. Si, si, je connais le patron, regardez sur la liste, vous n'avez pas un Brad Pitt Mais en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas exactement ça devant cette porte, parce que j'ai l'impression que ça ne se bouscule pas. De temps en temps, il y en a un qui vient et le videur vérifie, et bien souvent il rentre. Et puis il y a ce gars qui vient et qui ne fait pas la queue, mais qui s'installe à côté du videur et qui commence à lui parler. Oh, franchement, il y en a, ils doutent de rien à venir en basket, ils savent qu'il faut venir bien habillé. Et puis, il n'y a pas foule ce soir. Il sera là, Brad Pitt C'est prévu pour combien de personnes à l'intérieur? Est-ce que ce sera plein? Et le Victor, à côté, il ne dit pas grand-chose, il reste là, il fait son boulot. Et à un moment, il touche à son oreillette, apparemment quelqu'un lui parle, un appel, et il rentre, c'est l'heure, et il ferme la porte. Et le gars qui était là, à côté, eh ben, il reste dehors, bras ballants, comme un idiot. Alors il reprend ses esprits, il tape à la porte, mais on se connaît, on était ensemble tout à l'heure, on discutait bien, laisse-moi entrer. Et la réponse, non, on ne se connaît pas, tu n'es pas entré, tu restes dehors. Avec cette histoire, Jésus, il est très direct avec ses interlocuteurs. Vous commencerez à frapper, il vous répondra. Ce n'est pas une histoire théorique, il s'adresse à celui qui lui a parlé et puis à ceux qui se reconnaissent dans sa question, qui sont avec lui. Et si on regarde à la fin du texte, Jésus, il a répondu à la question. Oui, il y aura beaucoup de monde qui sera sauvé. Il y aura du monde, des gens qui viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du monde. Il n'en manquera pas, mais toi, ce n'est pas sûr. En tout cas, ce n'est pas sûr si tu ne changes pas d'attitude et que, au lieu de te croire déjà de la maison, tu n'essayes toi-même, tu ne t'efforces. D'entrer par la porte étroite. Qu'est-ce que c'est que cette porte étroite? C'est là que je veux bien que vous affichiez l'image que j'ai envoyée. La porte étroite, ce n'est pas la porte du pays des merveilles, hein, comme dans Alice, celle où on ne peut pas rentrer à moins de prendre... alors, ce n'est pas le champignon, ça c'est avec la chenille qui parle, mais le biscuit qui fait rétrécir, si on ne prend pas ça, on ne peut pas rentrer. Ce n'est pas ça, la porte étroite. On peut passer dans une porte étroite. On peut rentrer. Par contre, on ne rentre pas en groupe. On ne rentre pas tous ensemble comme un seul homme. On rentre pas chargé, il faut passer. En louant dans cette salle, je remarquais comment est faite cette salle. Tout à l'heure, à la fin du culte, on va ouvrir les deux portes au fond et on pourra sortir en grand nombre tous ceux qui étaient là. Ça, c'est pas une porte étroite. Par contre, là, il y a une porte discrète qui est ouverte. Je ne sais pas si elle intéresse beaucoup de monde. C'est peut-être plutôt à ça que ressemble la porte étroite. Il est temps de regarder qui pose la question. Qui est cet homme qui pose la question? Il ne nous est rien dit dessus, mais en lisant le texte, on se rend compte, c'est un juif, c'est évident. Pourquoi en aurions-nous douté? Jésus est dans le pays d'Israël, il œuvre auprès des juifs, c'est avec lui qu'il a des interactions. Et je crois qu'il se croit garanti d'être sauvé, d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'il fait partie du peuple choisi, parce qu'il est descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que l'alliance a été faite avec eux et que quand on regarde, ils sont dedans. Donc si mes pères sont dedans et que la promesse a été faite avec eux, je peux y aller moi aussi. Lui, il se voit déjà dedans parce que c'est un digne descendant d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais il y a aussi les autres, ceux qui ne font pas partie du peuple juif, les Romains ou les étrangers. Ceux-là, ils ne sont pas invités, ceux-là, on ne peut pas aller chez eux, on ne peut pas s'adresser. Ils ont la force militaire, ils ont conquis le pays, mais ils ne sont pas le peuple élu, ça, c'est nous. Puis il y a aussi des gens peu recommandables, les collecteurs d'impôts, les femmes de mauvaise vie. Ils sont juifs, mais leur vie est tellement déréglée. Et dans l'esprit de cette personne qui demande, de ces personnes qui demandent, je pense qu'il y a, ça. Il y a des gens quand même en dessous, des derniers. Alors que eux font partie de ceux qui sont au-dessus, des premiers. Mais avec sa réponse, Jésus vient dire que ça ne marche pas ainsi, le royaume de Dieu. On ne rentre pas en groupe parce qu'on appartient à un club de soi-disant plus proche de Dieu. On entre parce qu'on passe par la porte étroite. Non pas parce qu'on le mérite, mais parce qu'on est passé par cette petite porte. Et c'est l'occasion pour Jésus de révéler que cette porte de l'humilité, elle est ouverte comme ceux qu'on considère comme indignes. Y compris les non-juifs, ces païens brutaux qui n'y connaissent rien. Ou ces gens à la vie déréglée et qui le savent. C'est l'occasion de dire, pour Jésus, de dire aussi combien lui pèsent toutes ces personnes qui le suivent, qui viennent lui parler comme s'ils avaient gardé les moutons ensemble, qui lui tiennent la jambe et qui sont sûrs d'eux et sûrs d'être délivrés. Et si on est attentif, c'est assez violent ce qu'il dit. Jésus cite le psaume 6, « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Et si on lit la suite, « Car le Seigneur a entendu mes pleurs, le Seigneur a entendu ma supplication, le Seigneur accueille ma prière, tous mes ennemis seront saisis de honte et d'épouvante, ils se reculeront soudain honteux. » Toutes ces personnes qui sont là, elles me pèsent comme des ennemis qui sont autour de moi et qui me fatiguent, qui me harcèlent tout le temps. Quelle douche froide! Quelle douche froide cette révélation de Jésus! L'interlocuteur de Jésus et ceux qui sont avec lui se croyaient faire partie des initiés. Ceux pour lesquels la question du salut ne se pose pas, eh bien ce n'est pas le cas. Ils sont descendants d'Abraham, Isaac et Jacob et ils sont rentrés, mais ce n'est pas les seuls à être rentrés. Il y a aussi les prophètes qui sont là et que Jésus cite. Le peuple d'Israël n'est pas défini uniquement par son ascendance, par le fait qu'il descende d'Abraham, mais également par les prophètes qui portent la parole de Dieu pour réaligner le peuple quand il dévie. Et les prophètes, ils ont creusé à travers les siècles le problème de l'infidélité du peuple. Ils ont décelé la condamnation qui pèse sur lui. Ils l'ont annoncé, puis ils ont montré en quoi les comportements du peuple étaient mauvais, parfois même malgré une forme religieuse qui semblait bonne. Pour entrer par la porte étroite, il faut suivre leur voie, prendre conscience qu'on est incapable d'être fidèle à l'Alliance, qu'on a compris qu'il faut un cœur sincère, un cœur humble. C'est cela, la porte étroite par laquelle il faut s'efforcer de passer, de peur de voir certains qu'ils considèrent comme inférieurs entrer pendant qu'ils restent, eux, sur le carreau. Ainsi, dans le contexte du texte, hein, si on le prend comme ça, le sens est clair. Jésus annonce le jugement sur Israël qui n'accepte pas son Seigneur, et il annonce aussi la bonne nouvelle aux nations dont nous sommes bénéficiaires pour pouvoir entrer et participer au royaume de Dieu. Cela dit, ne sommes-nous pas, nous aussi, devant les mêmes dangers, devant les mêmes risques que ceux des contemporains de Jésus? Est-ce que nous ne sommes pas devant ce risque de croire qu'il y aurait des derniers, des personnes qui seraient moins proches de Dieu que nous? Parce qu'on peut se croire tranquille, sûr de faire partie de ceux qui rentrent. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. J'ai coché la case, c'est bon, j'ai plus rien à faire. On est dans l'Église, on connaît les codes. On est là, on est chez nous, on est prêt à donner notre avis sur la façon dont les choses doivent être faites. On est prêt à donner un coup de main parce qu'il faut bien que notre Église tourne. On ne fait pas partie des pécheurs. On connaît la Bible, on a suivi le programme de l'école du dimanche ou du CBJ quand on était petit. Peut-être on regarde avec condescendance d'autres, ceux que l'on n'attend pas, ceux que l'on ne regarde pas, dont on pense même qu'ils ne s'intéressent pas à Dieu ou que Dieu ne s'intéresse pas à eux. Ceux qui viennent à l'église sur la pointe des pieds, qui s'installent dans un coin pour ne pas déranger et qui ne se sentent pas chez eux. Prenons garde. Prenons garde de ne pas être de ceux qui s'installent à côté du vigile et discutent avec lui des règles pour entrer et sortir. De l'appeler Seigneur parce que c'est comme ça qu'on a entendu les autres l'appeler. Il m'est difficile de dire cela, mes amis, mais je crois que le jour du jugement dernier, nous aurons des surprises. Il y en aura qu'on sera surpris de voir à l'intérieur parce qu'on pensait qu'il n'y rentrerait pas. Mais il y en aura aussi certains que nous nous attendions à voir et qui n'y seront pas. Et quant à nous, efforçons-nous d'y être. Efforçons-nous de passer par la porte étroite. J'aimerais vous laisser trois choses pratiques. La première, la plus importante, c'est la réponse à cette question. Comment s'efforcer? Comment est-ce qu'on s'efforce d'entrer par la porte étroite? Je l'ai dit, ce n'est pas la porte du pays des merveilles. Il ne faut pas se stresser, se torturer. Est-ce que j'y suis? Est-ce que j'y suis pas? Et on peut retirer l'image, ce n'est pas la porte du pays des merveilles. Je crois que la porte étroite, c'est l'humilité. L'humilité de reconnaître qu'on ne mérite rien. Et en particulier, on ne mérite rien parce qu'on viendrait à l'Église depuis toujours, régulièrement, activement même. On rentre dans cette porte par grâce, par cadeau, par quelque chose qu'on ne mérite pas. En réponse à l'invitation de Jésus qui nous dit « Tu es pécheur, je te pardonne. Par contre, si tu n'es pas pécheur, je ne peux rien pour toi. » Pense parfois que c'est facile, comme juste comme une case à cocher, j'ai demandé pardon à Dieu. Détrompez-vous. J'en ai croisé plus d'un qui refuse de reconnaître qu'ils sont pécheurs, qui ne veut pas dire qu'ils ont besoin qu'on les pardonne, qui pensent pouvoir entrer par eux-mêmes plutôt qu'on leur offre cet accès parce qu'ils n'y arriveront pas. Efforcez-vous, disait Jésus, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est une discipline à faire sur la durée, de ne pas oublier d'où on vient et le chemin à parcourir. C'est une discipline de ne pas regarder d'autres moins avancés sur le chemin de la sanctification, sur le chemin de la transformation qu'opère Dieu en nous. C'est difficile de ne pas regarder ces plus jeunes dans la foi comme des gens inférieurs à nous. Ils ont des choses à apprendre. Il y a même des choses qu'on a peut-être comprises avec le temps et qu'on peut leur apprendre. Mais ils ne sont pas inférieurs. Efforcez-vous, nous dit Jésus. Pas facile. Pas facile de conjuguer à la fois cette progression dans la foi, le fait que certains sont appelés par leur don à certaines choses et d'autres pas, et tous ne font pas la même chose, mais de conjuguer cela avec le fait qu'il n'y en a pas qui sont moins dignes de rentrer, moins dignes que nous, moins dignes que moi. Première chose pratique que j'aimerais vous laisser. La deuxième chose pratique, c'est cet appel à renouveler, à accueillir. Les gens viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Ils arrivent. Est-ce que vous les accueillerez? Est-ce que vous les accueillerez comme le Seigneur les accueille? Des gens qui viennent pour être sauvés. Le prophète Ésaïe a dit, j'adore ce verset, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages, affermis tes piquets. » Avec l'image de cette tente qu'on déplace pour agrandir. C'est un peu plus dur ici de pousser les murs. Mais heureusement, vous êtes bénis, il reste de la place. Accueillir. En sachant que parmi ceux que vous accueillez, il y en a aussi qui n'iront pas jusqu'au bout. Mais si Jésus a supporté ses contemporains qui lui ont pesé à être là à côté de lui, à commenter, si on se souvient que Jésus nous supporte, nous, alors nous pouvons bien supporter ce qui arrive et les conduire avec humilité toujours plus près de notre Dieu. C'est la deuxième chose, accueillir. Et la troisième chose, peut-être une bonne chose que je tire dans l'attitude de celui qui a posé la question à Jésus. Avoir conscience du jugement à venir. Celui qui a interrogé Jésus, n'y aura-t-il que peu de personnes qui sont sauvées ? Il a compris qu'il y a un jugement et qu'il y a des gens qui sont condamnés et d'autres qui sont sauvés. Il y aura un jour où le maître de la maison se lèvera et où la porte sera fermée. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête. Nous avons beaucoup de choses en tête. Ce qu'on a fait la semaine dernière, ce qu'on va faire la semaine prochaine, ce qu'on a à faire au travail, ce qu'on a à faire à la maison, les soucis, des grandes décisions, de l'orientation, des problèmes matériels, relationnels, de santé. On a tellement de choses en tête. Gardons en tête cette réalité, je crois bien plus importante, parce que elle touche à l'éternité. Un jour, il y aura un jugement. Un jour, ce sera terminé. Un jour, la porte sera fermée. Et la question qui se pose à chacun est de savoir de quel côté nous nous trouverons de cette porte le jour où elle sera fermée. Est-ce que nous serons à l'intérieur, assis à la table du roi, en train de festoyer, ou à l'extérieur, en train de regretter. Je crois que c'est important de le garder en tête, et je crois que c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément garder en tête, se répéter. C'est pas toujours facile de parler de jugement, du jugement. Ça plombe l'ambiance. Mais c'est une réalité qu'il faut avoir en tête si on ne veut pas se retrouver un jour à regretter. Dans son introduction, Chantal nous a rappelé les paroles de l'Ecclésiaste : il y a un temps pour tout. Et il y aura ce temps du jugement dans lequel nous ne sommes pas encore, mais qui arrive. Il arrive, mais nous n'y sommes pas encore. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser en conclusion. La porte a beau être étroite, elle est ouverte. On en a un très bel exemple ici. C'est une porte dans laquelle on ne s'engouffre pas tous ensemble, en groupe. Comme à la fin du culte, on a tous bien écouté, on mérite de passer pour aller prendre un café. Mais elle est ouverte. Et chacun peut emprunter le chemin de la grâce qu'on accepte par humilité. Ne pas se croire un des premiers, supérieur aux autres, même si on est en avance, qu'on a déjà fait quelques pas sur le chemin de la transformation. Chemin qu'on emprunte en se souvenant d'être gracié par Dieu, gracié à travers le sacrifice de Jésus. Alors mes amis, efforcez-vous d'entrer par cette porte étroite, dans l'espérance de ce jour où nous serons à table, ensemble, dans le royaume de Dieu. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur pour cette porte ouverte. Cette porte certes étroite, mais cette porte qui nous attend. Seigneur, j'aimerais te prier que tu nous montres, à chacun d'entre nous, tu me montres ce qui m'encombre, ce qui nous encombre, ce qui nous charge et ce qui nous gêne pour passer à travers cette porte. J'aimerais te prier que tu retires de nos cœurs toutes ces racines qui font qu'on se croit plus fidèle que d'autres, plus méritant que d'autres. Qu'on ne se concentre que sur toi, sur nous, notre relation, afin de pouvoir répondre à l'invitation généreuse du royaume. Merci Seigneur pour tes plans parfaits. Merci parce que tu as des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Et merci parce que tu les réalises et que rien ne peut t'empêcher de faire ce que tu as prévu. À toi la gloire, Seigneur, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen.